Deutsche Welle. Droits et libertés.
Des avancées dans la garantie des droits des femmes au Maroc. Un article controversé du code pénal vient d'être abrogé, mais beaucoup de choses restent à faire pour protéger les femmes et les jeunes filles marocaines des violences. Une militante pour les droits des femmes nous en dira plus. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Pierron. Le drame avait profondément choqué les Marocains et plus encore les Marocaines. En mars 2012, une jeune fille mineure, Amina Filali, s'était suicidée après avoir été contrainte d'épouser son violeur. Ce dernier, grâce à l'article 475 du Code pénal, avait échappé à la prison en épousant sa victime. Après un feu vert du gouvernement islamiste marocain, les députés ont voté dernièrement l'abrogation de cet article. La mesure a été saluée par les défenseurs des droits humains, mais il y a encore beaucoup de mais. En témoigne la réaction de Maître Chaoui Fatima Zora. Elle est avocate et présidente de l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Je l'ai jointe par téléphone à Casablanca.
Bien sûr, on ne peut pas nier que c'est un bon pas, selon nous, parce que c'est un article qui avait fait grande polémique au Maroc, donc qui était déjà une demande des associations enfin, depuis des années. Et la tragédie du suicide de la Amina Filali en a fait une polémique. Oui, effectivement, c'est une bonne démarche, mais elle est toujours pas suffisante. Et je vous rappelle que l'article 475, il concerne les mineurs. Et dans l'article 475, on ne parle pas de viol, on parle de détournement de mineurs.
C'est-à-dire qu'une femme majeure violée...
Non, la femme majeure ne rentrait pas dans le même article 475. L'article 475 ne concernait que les mineurs et ne parlait pas de viol, de détournement et d'enlèvement de mineurs. Normalement, quand il y a enlèvement, généralement, il y a viol.
Est-ce que c'était une pratique courante que les violeurs présumés épousent leurs victimes lorsqu'elles étaient mineures ?
Oui, c'était une pratique assez courante aussi. Assez courante parce que pour le violeur, c'était une solution pour qu'il ne soit pas emprisonné. Et pour la famille, vu la société conservatrice qui est la société marocaine, donc c'était une façon de marier la fille, de ne plus parler de viol, de mariage.
Alors
c'est une solution plus ou moins qui arrangeait les deux parties et qui n'était pas en faveur de la mineure.
Plus globalement, un projet de loi censé permettre de sanctionner sévèrement les auteurs de violences faites aux femmes est en discussion depuis plusieurs années au Maroc. Il a même fait l'objet de débats houleux et sous la pression des organisations féministes, le gouvernement est en train de revoir sa copie.
Non, elle n'a pas été adoptée parce que déjà la loi, les associations féministes depuis 2007, revendiquent une loi contre les violences à l'égard des femmes. Elles avaient des mandats tout près qu'ils avaient présentés depuis des années au gouvernement. Le projet de loi ne répondait pas à la demande des associations féministes du Maroc. Donc, il n'a pas été adopté, il a été reculé. Donc, parce que déjà, les associations féministes n'étaient pas impliquées dans l'élaboration de ce projet de loi. Donc jusqu'à présent, il n'a pas été adopté. Il y a quand même un débat politique, sociétal sur le projet. Et on attend toujours le remaniement de ce projet parce que toutes les associations, enfin je dirais toute la plupart des associations féministes marocaines ne sont pas d'accord sur cette loi.
Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce projet de loi ?
Beaucoup de choses. Déjà, il n'y a pas eu concertation avec le mouvement féministe. Déjà, beaucoup de revendications des femmes ne sont pas impliquées. C'est un remaniement du code pénal alors qu'il y a une demande et qu'il y a un collectif qui travaille sur la refonte du code pénal. Donc, il y a beaucoup à faire sur ce projet de loi.
Et les violences faites aux femmes au Maroc, elles continuent, elles s'aggravent, elles diminuent ?
Les violences à l'égard des femmes partout dans le monde, elles s'aggravent. même dans les pays où les lois sont très avancées, comme l'Espagne, comme la France et comme d'autres pays qui ont adopté des lois contre la violence à l'égard des femmes, bien sûr, ça grave. Au Maroc aussi, vous savez que la dernière statistique officielle au Maroc, 62% des femmes marocaines ont été au moins une fois victimes de violence. Donc c'est énorme.
De violence conjugale ?
Non, de violence en général.
En
parce
général.
Que nous, on ne se limite pas aux violences conjugales. Nos revendications, c'est de lutte contre toute forme de violence à l'égard des femmes, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit dans le milieu conjugal, que ce soit... Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une loi qui protège les femmes des violences conjugales. Nous avons d'une loi qui protège en général les femmes.
Les femmes et les petites filles, on pense aux petites bonnes hein, qui sont toujours exploitées, entre autres.
Il y a un autre collectif qui travaille dessus, sur un projet de loi contre le travail des petites filles.
On peut s'en féliciter. Le 23 janvier dernier, un tribunal d'Agadir a condamné à 20 ans de prison l'employeuse d'une petite bonne morte l'an dernier des suites de graves brûlures. Elle s'appelait Fatima, elle avait 14 ans. Son employeuse a été reconnue coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort. Selon le Haut Commissariat marocain au plan, un organisme officiel, le travail des moins de 15 ans concerne encore plus de 90 000 enfants au Maroc. Et l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, constate dans son dernier rapport annuel que dès l'âge de 8 ans, des fillettes marocaines continuent à travailler chez des particuliers jusqu'à 12 heures par jour pour l'équivalent de seulement 11 $ par mois. On pourrait espérer pourtant que la situation des femmes au Maroc s'est améliorée. Cela fait 10 ans cette année que la nouvelle Moudawana, le code de statut personnel ou code de la famille, est entrée en vigueur. Il devait améliorer la condition féminine.
10 ans après, on essaie de demander l'abolition des articles que nous avons toujours demandé à qu'ils soient amendés. Par exemple, le mariage des mineurs. Aujourd'hui, l'article 20 donne la possibilité au juge d'autoriser un mariage de mineur, bien que l'âge de mariage à la Moudawana, c'est 18 ans. Mais il y a quand même cette autorisation que nous considérons comme une violence à l'égard des mineurs.
Ces dérogations, elles sont fréquentes ?
Oui, les juges s'arrêtent encore pour des mariages de mineurs. Donc, pour nous, le combat est encore long. Bien sûr, la Moudawana, c'était une très, très bonne chose. Nous avons eu beaucoup d'acquis. La Constitution aussi, on a eu beaucoup d'acquis sur les droits des femmes. Mais toujours est-il qu'il y a une mise en œuvre à mettre en place, qu'il y a des choses qu'il faut changer.
Maître Chaoui Fatima Zora, la présidente de l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes. La nouvelle constitution marocaine rédigée en 2011 pendant les printemps arabes et suite à la contestation populaire au Maroc consacre l'égalité entre hommes et femmes dans l'exercice des droits et des libertés fondamentales. Les Tunisiens, eux, ont une constitution encore plus jeune. Elle vient tout juste d'être adoptée et elle est saluée ici par le politologue tunisien Zied Mirsi au micro de Ramata Sori.
Déjà, le processus d'adoption de cette constitution est unique dans notre histoire récente, c'est-à-dire que on a eu des élections libres, démocratiques et indépendantes qui ont débouché sur des élus de la nation qui ont travaillé pendant 2 ans à essayer de faire cette constitution qui, à la fin, après une mobilisation sans précédent des forces vives de la nation, a pu créer ou pousser les conservateurs de chez nous à un compromis historique, je pense, pour avoir une constitution où l'État est civil, où les droits de l'homme et de la femme sont égaux, où la torture est abolie et c'est un crime imprescriptible, où la liberté de la presse et la liberté d'opinion et la liberté de conscience y sont inscrits, ce qui, je pense, nous met dans une place qui est plutôt confortable par rapport au reste des pays de la région.
Je me permets quand même d'ajouter que si la constitution tunisienne consacre l'égalité entre citoyens et citoyennes, en droit privé, des inégalités demeurent entre hommes et femmes, notamment en matière d'héritage. Et puis, à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en Russie, Reporters sans frontières dénonce les atteintes à la liberté de la presse au pays de Vladimir Poutine. Il n'y a plus pratiquement là-bas que des médias d'État ou proches de l'État. Et comme le souligne Christian Mir, secrétaire général de la section allemande de RSF,
dans les médias d'État, il n'y a eu aucune information critique sur les atteintes aux droits de l'homme commises en amont des Jeux olympiques. Par exemple, les expulsions forcées ou la corruption dans la construction des sites olympiques. En novembre 2013, le Premier ministre Medvedev a en outre autorisé les autorités à surveiller toutes les communications téléphoniques et par Internet des participants et des visiteurs pendant les Jeux olympiques. Et surtout, elles pourront analyser ces données pendant une période de 3 ans après les Jeux olympiques.
Christian Mir, donc, de RSF. C'est la fin de ce magazine Droits et Libertés. Merci de nous avoir prêté votre attention. Au micro, Marie-Ange Piron.